Chapitre 5. Hélène était ravie d'aller passer enfin ses vacances chez sa bonne nounou Galissarde, au petit village de la Cévenne. Retrouver le calme dans l'amitié du ciel et de la montagne, parmi des simples qui ne connaissent que des choses et des sentiments simples, quelle chance! Sa mère, avec Isidore, l'accompagna ce matin de juillet à la gare, jusque sur le quai. Hélène frémissait d'impatience et les rayons, qui tombaient parfois sur le teint mat de son visage, l'emplissaient d'une lumière flatteuse. À la dernière minute, Isidore l'embrassa devant tout le monde avec une effusion qui ne s'était jamais permise. Hélène le sentait malheureux, préoccupé des menaces de la pauvreté. Pendant des semaines, que deviendrait-il dans Husclas, privé de la présence de la belle fiancée qu'il aimait de plus en plus? Enfin, le train s'ébranla. Jusqu'au suprême instant où il disparut, dans l'éclat somptueux des jardins, Hélène agita son mouchoir en signe d'adieu. « Quand la reverrons-nous ? » gémit la Griffoule. « Bientôt, bientôt !» Le retour en ville fut maussade. Madame Charmasson ne parlait pas volontiers, inquiète du souci où elle devinait que son enfant était plongé. La Griffoule, également, gardait un air grave. Lui qui, d'habitude, prenait tout du bon côté. Arrivés à la halte, ils se séparèrent d'un mouvement subit, sans cérémonie. La Griffoule gagna en hâte la boulangerie. Sa mère était déjà prête à partir pour la banque. Elle n'avait qu'une moitié de la rue Saint-Jean à descendre, puis une légère pente du Planol à gravir. Là, juste en face, s'élevait la maison de Gauzy, presque neuve, les murs blancs, un large balcon de fer ouvragé, les volets verts, la lourde porte à deux battants, munie d'un marteau de cuivre. Maman la Griffoule, qui était coquette, arborait comme un dimanche sa robe de moire noire, son bonnet tuyauté, ses fines mitaines à jour. Au bout de 5 minutes, elle fut rendue. Elle poussait la porte lorsque, dans le vestibule spacieux, pavé de marbre blanc et noir, elle se trouva nez à nez avec le banquier. Celui-ci était un homme petit, corpulent, d'une 50aine d'années, la figure joviale, une moustache grise, de grands yeux délurés, toujours habillé comme un milord, redingote d'alpaga gris, souliers vernis, gilet de velours mauve qu'il barrait d'une chaîne d'or. « Tais !» s'écria-t-il, « vous m'apportez de l'argent, madame la Griffoule ?»«
Cette fois, non. Au contraire. »
« Bien, entrez dans mes bureaux. Vous n'avez pas besoin de moi, n'est-ce pas ? Je suis pressé, au revoir. » Il ôta son melon gris pour saluer d'une révérence et, le bec de la canne accroché au bras, il fila pressement. Madame la Griffoule hésita un peu dans le bureau de la banque, le long du grillage façonné de cuivre où s'ouvraient 2 guichets. Elle, qui n'était toujours venue que pour apporter de l'argent, éprouvait la sensation bizarre qu'elle venait à présent solliciter quelque charité. Cependant, le caissier, fort calme, lui versa sans excès de formalité ses 20 000 francs. Elle n'en finit plus de compter les billets, étant honnête jusqu'aux scrupules, puis de les ranger dans son petit sac. Elle partit avec un sentiment de gratitude, satisfaite de posséder non seulement une partie de sa fortune, mais la certitude que la banque ne méritait aucune suspicion. Et son cher Vidor, ah, qu'il fut heureux de la bonne nouvelle! Ses projets restaient donc intacts, à l'abri d'un risque. Il s'empressa d'aller, l'après-midi, rassurer papa Charmasson.
« répliqua celui-ci. Le banquier emploie la meilleure des tactiques, qui est de paraître sans ennui et de payer rubis sur l'ongle.
« Vous me faites peur. N'exagérons rien. Patience, patience. Surtout, n'ébruite pas mes renseignements. »
« Diable, c'est tout de même un mauvais moment à passer. Ah, je m'en vais surveiller un peu mes ouvriers. »
Le magasin du Petit Paris prenait vraiment bonne tournure. Haute façade en relief sur les maisons voisines, harmonie agréable des 3 étages en croissance régulière, le rez-de-chaussée et le premier protégés chacun d'une glace unique, le second aéré d'un balcon de pierre, le troisième de nouveau protégé d'une glace. Et sur le toit, un zinger était en train de dresser une girouette qui était un coq tout doré. Les menuisiers s'occupaient de fixer les portes, l'ébéniste de disposer les meubles.
La Griffoul monta jusqu'au troisième, dans son grand atelier inondé d'une lumière qui semblait lui sourire. Là, derrière des tentures rouges, tendues et détendues à volonté, qu'il serait bien, tout seul, dans ses études et dans ses rêves, pour se consacrer à des œuvres d'art qu'il imaginait aussi belles que les sites de son terroir. Il descendit de sa solitude avec regret. Sur le carreau de la halle, il y avait Courtès, Pouget, Azéma, qui chuchotaient tout bas. Pourtant, ils lui firent un accueil amical. « Eh bien, ça marche à ton affaire ?»« Oui, je n'ai plus qu'à recevoir mes marchandises. »« Et ton mariage ?» Le mois prochain. Tout à coup, la Griffoul vit s'avancer ce drôle de monsieur Fornet qui affectait une humeur narquoise. Eh bien, la Griffoul, nous avons être ennemis. Pourquoi, monsieur Fornet, Husclas et sa banlieue fournissent assez de clientèle pour deux magasins. C'est dans les autres quartiers qu'on pâtira de notre double prospérité. Ils mentaient tous les deux, mais avec tant de plaisir. Et ta peinture? J'en ferai plus que jamais, j'en vendrai, car pour aider à la propagande de mes œuvres, j'aurai tous les artistes du pays, et Dieu sait s'il y en a. C'est possible, dit M. Fornet qui riait jaune. Moi aussi, il faudra que je me mette à la peinture. Vous, à votre âge? Et tous se moquèrent de ce gringalet sans poésie, qui, sous le prétexte qu'il avait beaucoup d'argent, se croyait peut-être l'étoffe d'un Raphaël. Malgré tout, la Griffoul riait jaune à son tour. Fornet n'était-il pas capable de mander de Béziers quelques artistes présomptueux qui, dans la vieille boutique de la rue Saint-Roch, fabriqueraient des portraits à la minute? Dans tous les cas, dit la Griffoul, c'est bon signe pour la civilisation. Pouget, l'artiste, qui serrait sous son bras la revue des deux mondes, protesta. Ce n'est pas mon opinion. Si nous avons trop de monde, on ne pourra plus faire la sieste. « Oh, vous, ne vous fâchez pas, vous ne travaillez que le matin. » Pouget s'en retourna chez lui lentement, en haussant les épaules. Puis Courtès, qui avait la parole courte. Puis Fornet, que sa femme, du seuil de leur boutique, appelait à grands cris. La Griffoul, délivrée de leurs obsessions, s'en alla chez le quincaillier. En chemin, il songeait qu'Hélène, depuis les 8 jours de son départ, n'avait donné qu'une seule fois de ses nouvelles. « Quand reparaîtrait-elle dans Husclas ? » Et que faisait-elle à Cornioux? Le village, au flanc de la Cévenne, s'étirait au long d'un mauvais chemin que foulaient depuis des siècles tant de charrettes, de mules chargées de bois, de troupeaux de moutons ou de vaches. La maison de Galissarde se présentait la première sur la gauche et, assez cossue, agrémentée d'un jardin qu'enfermait une grille. Pour aboutir à la haute porte de fer à deux battants, il fallait contourner l'angle de la maison où conduisait une allée large, bordée par des rosiers et des lilas. Du côté opposé au chemin, le parapet d'une muraille, surplombant la grasse prairie où paissaient les troupeaux, était décoré de vases de fleurs, tandis que des grenadiers à la folle verdure encadraient la porte de la maison, au-dessus de laquelle une treille offrait de gros raisins muscats, veloutés d'or et d'émeraude. Lorsque Galissarde reçut Hélène à la gare de Bédarieux, elle s'étonna de la voir pensive, préoccupée. En route, sur la grande route qui, par l'Amalou, grimpe jusqu'à Saint-Pons, une fois qu'elles furent installées sur la carriole que traînait le courageux cadet, un âne presque sans défaut, Galissarde se plaignit. « Tu ne parles pas beaucoup, Hélène. Tout à l'heure, nounou, le train m'a fatiguée. Tu sais, le pays devient plus beau chaque année, tellement à l'écart du monde. Ah, que tu me manquerais si je ne t'avais plus, au moins l'été. Alors, tu es contente de te marier?
Certes.
Dans de bonnes conditions?
Excellente. Il est riche, la Griffoul, et moi, je n'ai rien.
Oui, mais plus tard. Est-il beau garçon?
Ça, impossible de le prétendre. Seulement, il a du cœur. Il a passé 10 ans à Paris.
Paris? Il ne me méprisera pas?
Non, voyons, c'est le fils de Madame la Griffoul, la boulangère.
Depuis le temps, je ne me rappelle plus.
La boulangère, oui, mais le fils, peu cher.
La carriole se détacha de la grande route, aussi glissante qu'un parquet, pour s'engager dans le chemin sauvage qui fend avec peine la brousse d'un bosquet, et qui, par un nonchalant contour sur le bord de la grasse prairie, monte, sous de vieux chênes, à Cornioux. Hélène retrouvait avec une félicité véritable ce pays de montagnes primitives dont la mélancolie s'adaptait à la mélancolie de son âme. Mais n'éprouverait-elle pas, dès ce soir même, une désillusion? Les deux enfants de son âge, les amis avec lesquels, en ce village pauvre, elle avait appris, parmi les animaux domestiques, à marcher et à parler, ces amis, qu'elle rencontrait chaque été à l'époque des vacances, étaient descendus dans les villes de la plaine gagner de l'argent. Ma foi, tant pis, elle serait plus à l'aise, seule, pour réfléchir à sa destinée prochaine. Chaque jour, quand elle avait ratissé les allées du jardin, cueilli des fleurs pour parer la maison ou aidé Nounou aux besognes du ménage, elle s'en allait demander aux bonnes grâces de la montagne, qui est si forte contre le caprice des saisons, un peu de courage et de sagesse. Au vent des hauteurs, dans le murmure des ruisseaux et des feuillages, elle goûtait le charme d'une paix consolante, pleine de promesses. Elle pensait à son mariage sans cesse. Ce miracle, tant attendu par toutes les jeunes filles, s'était pour elle réalisé à l'improviste, alors qu'elle ne l'attendait plus. Que lui apportait-il, le bonheur ou la misère? Chaque jour, elle errait dans les bois, sous les voûtes blondes ou vertes des chênes et des châtaigniers. Souvent, vers le soir, elle se reposait dans la vaste clairière de la Clamouse, où s'écroulait du haut d'une falaise une onde blanche et froide qui, par un pli de rocher, arrosait des joncs, des roseaux et des nénuphars. Au loin, dans une vasque limpide, les bêtes de la forêt venaient boire, aux heures troubles des premières ombres. Près de la cascade, sur un rocher qui trempait dans les bleuâtres remous du ruisseau, Hélène s'asseyait un moment, les mains jointes dans un geste de prière. Quelquefois, elle s'attardait trop en ses promenades, et si Nounou la grondait, elle promettait toujours de ne plus commettre d'imprudence. Or, ce soir, l'avant-veille de son retour à Husclas, elle n'était pas encore rentrée à la maison. Déjà, le nuage du crépuscule s'exhalait des prairies, au-dessous du village. Galissarde s'inquiéta. Dardard, elle s'enfuit à travers la forêt jusqu'à la Clamouse, dont Hélène lui avait fréquemment vanté la beauté bienfaisante. Dès qu'elle l'aperçut sur son rocher, le dos tourné, elle s'avança en hâte, mais avec précaution, par le sentier caillouteux. Hélène demeurait immobile, le front dans la main. Une fois, elle regarda le ciel, comme pour implorer l'assistance de Dieu. Nounou, malgré son impatience, craignait de l'effrayer par son apparition soudaine. Mais, glissant sur un gravier, elle dut s'appuyer à un arbre et elle poussa une plainte. Hélène, en tressaillant de peur, se détourna. « Oh, ma petite !» s'écria Galissarde. « Pourquoi es-tu là si tard? Pourquoi si désolée ?» Hélène la regarda fixement, avec un peu de honte, comme si elle se fût reproché une faute. Galissarde s'assit auprès d'elle, à genoux sur le sentier, et lui saisit les mains. « Je devine, mon enfant, que tu es ennuyée de repartir pour Husclas. N'est-ce pas vrai ?» Hélène voulut répondre, mais un sanglot l'en empêcha. « Voyons, sois raisonnable, dis-moi tout. Ce garçon ne te plaît pas ?»« Mon Dieu, je ne l'aime pas !»« Alors il ne faut pas l'épouser. »« Mes parents sont si contents !»« Ils ne t'obligeront jamais à te marier contre tes idées. » « Non, ils sont si bons, et ce Lagrifou, lui, fait tout pour me plaire. Autant vaut celui-là qu'un autre. Nous sommes un peu cousins. »« Eh bien, qu'est-ce qui te tracasse? Je ne comprends pas. » »« Moi non plus. Vois-tu, ce garçon a vécu 10 ans à Paris. J'ai peur de ses grands projets qui le conduiront à la ruine. Et ce sera le malheur à jamais pour mes parents et pour moi. » Hélène se mit à pleurer doucement de tout son cœur si faible. Galissarde, pour qui tout était simple, soupirait d'étonnement. Je crois, mon enfant, que tu t'alarmes vite. Pourquoi ne prévois-tu que des calamités? Pourquoi n'aurais-tu pas ta part de satisfaction comme tout le monde? Allons, viens, nous arrangerons tout ça. Nounou la souleva par un bras, non sans quelque rudesse, à son insu. Elle marchait côte à côte par le sentier qui grimpe sous la voûte obscure des bois. J'ai eu tort, petite, de le. J'ai eu tort, petite, de te laisser aller seule. La solitude est souvent mauvaise conseillère. Voyons, après tout, il faut avoir de la raison. Puisque ton fiancé a de l'argent, il te faut l'accepter de bon cœur. Oui, c'est très vrai.
Seulement, je voudrais rester chez toi quelques jours encore.
C'est qu'on t'attend après-demain à Husclas. »
Elles avaient gravi le talus qui limite la forêt. Elles suivaient le vieux chemin aux ornières profondes au-dessus des prairies. Quand elles arrivèrent à la maison, il leur sembla que la nuit lui était tombée dessus tout d'un coup. Le chat, sur la dalle de la cheminée, ouvrit les yeux, se remua prudemment pour changer de place. Le chien-loup, en s'étirant de tout son long, s'approcha d'Hélène pour lui faire une caresse. L'horloge, dans le haut de sa gaine de bois verni, sonna 9 heures de son timbre grave et lent. On eût dit que toute la maison se réveillait de ses rêves pour recevoir sa chère paysanne et son enfant. Le lendemain, Hélène imagina un prétexte pour ne pas quitter la montagne. Et puis, les jours suivants, Nounou, après quelques hésitations, cédait toujours. Mais à Husclas, on s'inquiétait du sang-gêne d'Hélène et surtout la griffoule. Aussi, interrompant l'organisation de son magasin, il partit sans délai pour Bédarieux. Là, il loua une auto qui, roulant le long du jour, sur le gravier de Sévenol, atteignit au bout de 20 minutes le terroir de Cornioux. L'auto dut ralentir à l'allure du pas sur le sol broussailleux du bosquet par les ornières du vieux chemin. Il était près de midi quand elle arriva au village. Hélène, dans le jardin, cueillait des roses pour en parer la table lorsque, soudain, un pas impatient la fit tressaillir et, dans l'innocence de son âme et des choses, elle devint toute rouge. « Vous ne m'attendiez pas, Hélène ?» La griffoule s'avançait délibérément, sa petite figure brûlée par le vent et le soleil. Il souriait avec une sorte d'orgueil triomphant. « On finissait, dit-il, par vous croire malade. »«
Pas du tout, au contraire. »
« Vous ne languissiez donc pas de me voir ?»
Elle baissa les yeux et, fort incapable de mentir, elle devint rouge davantage. Il lui prit les mains jalousement sans qu'elle esquissât un geste de défense.
« Votre nounou, où est-elle »«
Au village, pour des emplettes. Vous dînez avec nous, naturellement. »
« Oui, si je ne suis pas indiscret. »
Il s'assit dans un fauteuil d'osier et, en moment de silence, il contempla Hélène qui restait debout, intimidée de se trouver seule avec lui.
« Alors, demanda-t-il, vous êtes bien ici ?»«
Il faut ici peu de choses pour être content. Pas d'ambition, pas même de toilette.
À la ville, ce ne sera plus pareil. »«
Je le sais.
J'espère qu'à la ville, le bon Dieu nous aidera. »
Elle eut, au saint nom de Dieu, un désir de soumission heureuse. Le charme de la montagne opéra de nouveau sur son âme et, pour la première fois, l'ouvrit au pudique sentiment de l'amour. Tout d'un coup, la corpulente Galissarde apparut sur la marche du seuil, d'abord stupéfaite et fronçant les sourcils. Les fiancés se retournèrent vers elle avec une tranquillité si pure qu'elle eut également du plaisir.
« Tais !» s'écria-t-elle, « c'est monsieur la griffoule !»«
Lui-même » fit-il en se levant.
Galissarde, qui tutoyait volontiers tout le monde, repartit.
« Je t'ai vu si jeune que je ne t'aurais pas reconnu dans une foule. Tu n'as pas beaucoup grandi, Pécaire.
Ça ne m'empêche pas de me bien porter.
Pardi, et ta mère ?
Elle va très bien.
Quel brave enfant tu épouses, tant de qualités, honnête, intelligente, modeste.
Assez, nounou, assez !»
Hélène, avec un geste de protestation, s'éloignait jusqu'au fond de la longue salle.
« Mettons le couvert, mes enfants, c'est l'heure !»
On dîna dans le jardin, à l'ombre de la maison, parmi l'enivrant parfum des fleurs et des treilles. Et quel délice d'oublier les soucis de l'argent et de la vanité, les médisances des vieux boutiquiers d'Husclas qui ne souhaitaient à la griffoule que les pires déboires. Puis les fiancés allèrent en promenade par les entours du village. Dans la forêt, Hélène voulut montrer à son fiancé la clairière de la Clamouse où l'on n'entendait que la voix de l'eau tombant de la lèvre du causse et le bourdonnement des feuillages où tant de fois elle avait songé à lui sous la bénédiction du ciel. Là, dans le sein de la montagne éternelle, ils communièrent des mêmes pensées, d'une fièvre douce de vivre et d'espérer. Ils revinrent au village. À l'improviste, le démon du rêve ressaisit la griffoule qui demanda «
À qui appartiennent ces bois ?
À la commune.
On y pourrait bâtir un pavillon de repos pour les vacances.
Mais non, n'aurons-nous pas le grand jour ?
C'est vrai, Hélène, vous avez toujours raison.
Le soir, avec sa nounou, Hélène accompagna la Griffoule jusqu'à son auto qui attendait au bas de la côte, sur le chemin de la prairie.
« Donc, c'est promis, Hélène, vous rentrez demain à Husclas ?»«
Demain ou après-demain ?»«
Non, demain. Sans vous, je n'aurai plus d'élan à l'ouvrage. Allons, au revoir. »
Ils se rapprochaient l'un de l'autre et ils tremblaient de n'avoir pas le courage des fiancés depuis longtemps familiers. Mais Nounou battit de ses mains rudes et commanda
« Embrassez-vous, pardi, puisque je suis là !»
Ils s'embrassèrent tendrement dans l'enivrante lueur des verdures. La Griffoule monta dans l'auto. Le chauffeur démarra sans retard. La Griffoule, penchée à la portière, salua de la main une dernière fois. Hélène lui envoya un baiser. Quelle joie fière pour la Griffoule! Il était venu à la montagne naïve et généreuse, comme à un Éden ignoré de la pauvreté des hommes, respirer enfin le bonheur d'aimer et d'être aimé.